Épisode 105 du podcast Alimentation. Aujourd'hui, je te parle de la cantine qui fait sensation sur la rive sud de Montréal, la cantine du Petit Bel Oeil, de gin ainsi que d'une bière du Québec, ainsi que les dernières nouvelles sur les bières que j'ai bu en fût sur mon kegerator. Et c'est parti! Salut le foodie, bienvenue au podcast Alimentation, ici Roger, ton crazy chef. Va tout de suite liker nos pages de médias sociaux, que ce soit X, Facebook ou Instagram. Tu vas avoir toutes les photos de ce que je te parle aujourd'hui, ainsi que toutes les dernières nouvelles quant au podcast. Mais aujourd'hui, au premier bloc, une cantine qui fait fureur depuis son ouverture il y a à peine quelques mois, sur la rive sud à Belœil, c'est la cantine du Petit Belœil, une cantine qui se situe au 268 rue Duvernay à Belœil. J'ai été faire un tour, ça faisait longtemps que je voyais des posts passer un peu partout, et dans les vidéos qu'il y avait mis un peu partout sur les médias sociaux, je m'étais rendu compte que je connaissais le propriétaire JF, qui était là un livreur pour les pains Weston, au moment où je travaillais au restaurant L'Express à Saint-Basile-le-Grand. Donc, on s'est mis à jaser un peu là, et à se remémorer du bon vieux temps. Et c'est sûr, on a pris des nouvelles l'un de l'autre, et j'étais bien content de voir qu'il y avait une très belle cantine. Et il y avait vraiment là un gros buzz, là, ça faisait un bout que j'en entendais parler. Les fins de semaine, les vidéos qu'ils mettaient, il y avait une file toute la journée dehors, tellement que les gens faisaient la file pour aller goûter à leurs produits. Fait que je m'étais dit, faut que j'aie une chance d'aller goûter à ça. Alors, ça l'a donné, là, j'avais affaire à Belœil une petite journée, donc je me suis arrêté, j'avais pas dîné encore. Je me suis dit, le moment parfait pour aller tester les produits de la cantine du Petit Belœil. Donc, une cantine traditionnelle, là, avec tout ce qu'il y a de plus habituel qu'on a dans les menus de cantine du Québec. Je me suis pas cassé la tête, là, je me suis concentré sur les classiques là, qu'on veut manger quand on va manger à la cantine. Donc, premièrement, j'ai commencé avec une rondelle d'oignon. La rondelle d'oignon est en vente à 5,25 $. Une belle rondelle d'oignon, super bien cuite, un très très beau crispy à l'extérieur. Vraiment, c'est ce qui est important. Trop souvent, là, la rondelle d'oignon est un petit peu trop molle à l'extérieur. Là, ça nous donne un effet un peu chewy et on n'a pas ce qu'on veut là, quand on croque dans l'oignon. Après ça, là, l'oignon suit au complet et on reste avec un ring de pâte. C'est jamais chic. Donc, on n'était pas du tout là. Une super belle cuisson avec un très, très beau croustillant. L'épaisseur des rondelles d'oignon aussi, souvent, là, probablement, c'est une des choses qui fait que la rondelle d'oignon en tant que telle n'est pas bien cuite. La rondelle d'oignon est beaucoup trop épaisse. Là, ça prend une cuisson vraiment plus lente, là, différente. Là, une belle minceur, ce qui fait que ça faisait une belle bouchée, un beau crisp, super bien exécuté. Probablement là, que c'était fort possiblement des produits qui sont achetés, mais sinon c'était super bien fait. Fait que c'était très raisonnable. Là, c'est certainement pas la seule cantine qui achète ses onion rings. Par contre, ça veut pas dire que c'est le meilleur produit qu'ils achètent à chaque fois ou qu'ils cuisent là, de la meilleure façon. Dans ce cas-ci, là, on avait quelque chose de mince, avec quand même une belle fraîcheur dedans, donc il y a une belle rotation sûrement là, des stocks. Il n'y a rien qui traîne trop longtemps dans le congélateur. Un beau crispy, une belle fraîcheur, une belle épaisseur, des belles saveurs, très simple. On m'a pas mis de sauce aussi. Ça, c'est une affaire des fois là, que certaines places ont commencé. C'est pas nécessairement un hit là, qui veulent eux autres même décider là, dans quoi que tu vas assaisonner tes rondelles d'oignon. Personnellement, j'étais un peu un vieux baptême de grincheux. J'aime ça bien nature. Donc, j'étais bien content de voir là, qu'ils m'avaient pas essayé de me swivel de la sauce là-dessus. C'était parfait pour moi. Donc, une belle rondelle d'oignon, très simple, très bien exécutée, bien cuite, bien savoureux. On commençait en force. La rondelle d'oignon, on y va avec un 4 sur 5. Ensuite, j'y étais avec le gros burger de la place, le Big Jeff. Le Big Jeff qui est un cheeseburger double au bacon, vendu à 12,50 $. Un super beau double cheese bacon burger, une belle caramélisation de la viande, bien assaisonné sans être over-assaisonné. Des fois, on essaie de mettre un peu trop de sel aromatique ou un peu trop d'épices à steak, là, puis on vient un peu fou là, souvent dans les cantines. Là, c'était vraiment super bien dosé. Le goût de la viande avait trouvé moyen d'être mis de l'avant, donc une belle caramélisation, une belle viande fraîche de qualité. Vraiment, là, c'était vraiment une très belle exécution pour tout ce qui se fait dans la cantine. Des fois, je te le dis souvent, ce qui est le meilleur, c'est les choses simples qui sont bien exécutées. On est exactement dans ce créneau-là. Je veux dire, c'est une cantine. Il n'y a pas 14 000 façons là, de faire les choses. Donc, on garde ça simple et on le fait super bien avec des bons produits. Exactement là qu'on est, à la cantine du Petit Bel Oeil. Donc, la viande bien assaisonnée, bien caramélisée, une belle fraîcheur, le goût de la viande qui est mis de l'avant, super bien assemblé, un burger vraiment copieux. Ça me rappelait de la cantine qui était populaire au moment où j'habitais Bel Oeil, la Frite à Mathieu, qui a malheureusement fermé là, dû au développement domiciliaire là, qu'il y avait là. Donc, la bâtisse a été ramassée par un nouveau contracteur pour faire des nouvelles bâtisses. Ça me rappelle vraiment ce type de cantine-là, des beaux produits frais, bien faits. Vraiment, là, je trouvais ça super intéressant, là, la cantine, la Frite à Mathieu. Donc, la cantine du Petit Bel Oeil est dans cette optique-là. Vraiment, du très beau stock, très bien fait. Un beau assemblage. Là. Moi, je l'ai pris le burger all dress. Évidemment, vous pouvez l'assaisonner à votre goût, comme dans n'importe quelle bonne cantine. Mais vraiment, là, des beaux produits. Petite particularité, souvent, dans le burger, on y va avec la laitue Iceberg, qui est somme toute absolument sans saveur, mais qui amène un croquant et une fraîcheur. Là, on avait de la laitue frisée. J'aimais le petit bite, puis le petit côté presque poivré de saveur que ça apportait dans le burger. Une petite différence, mais qui amenait quand même un petit quelque chose, là, qui apportait quelque chose qui up le game, là, si tu veux. Fait que c'était vraiment une particularité intéressante. Ça faisait un produit légèrement différent, en plus de toutes les belles qualités. Donc, pour le Big Jeff, là, qui est le double bacon cheeseburger, je pense qu'on est pas mal là au summum de ce qu'on peut demander à un cheeseburger classique de cantine. Donc, un 4.5 sur 5. Si tu ne vas pas dans les trucs gastronomiques fous, là, si tu veux avoir des produits de cantine de qualité, on est pas mal, pas loin du maximum qui peut se faire. Super beau produit, le Big Jeff de la cantine du Petit Bel Oeil. Et pour terminer, la dernière, mais non la moindre, la chose pourquoi on se déplace à la cantine locale, la poutine. Oui, 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 oui. Alors, la petite poutine de la cantine du Petit Bel Oeil est à 9,75 à la carte. Ils ont deux autres formats, là, la grande et la familiale. Une très belle poutine, là, tous les détails étaient là. Une patate fraîche, crispy, du fromage ultra frais. C'était peut-être un des fromages que j'ai mangé les plus frais là, dans une cantine, mis à part, là, comme je t'avais parlé l'été dernier, où j'avais été à la microbrasserie Quaticook, là, où la fromagerie, la laiterie Quaticook était carrée en face, là, au bord de la rue. Donc, évidemment, eux autres avaient été durs à battre là, un peu plus, puis le fromage sortait directement de la vache. Donc, on était dur d'avoir plus frais que ça. Mais sinon, là, pour la fraîcheur du fromage à poutine, Petit Bel Oeil arrive là, avec une longueur d'avance sur à peu près tout le monde. J'ai été très surpris. Des beaux gros morceaux, je t'en ai déjà parlé, moi, la poutine avec des petits flocons égrenés, là, très pas vraiment. Fait qu'un beau gros squick-squick bien frais. On avait bien réussi là, le fromage. La patate, comme je t'ai dit, là, super bien, un beau crispy, une belle tendreté, bien assaisonné, pas trop salé. Ça aussi, c'est une affaire, des fois, on y est un peu fou avec le sel. Correct, on a assaisonné, c'était super bien fait. Une très belle sauce, là, un gravy pas trop lourd, pas trop salé. Ces deux affaires, évidemment, qui viennent un peu là, rendre la poutine moins funnée, là, quand ça devient une espèce de sauce trop lourde, que ça devient une boîte. Pas trop salé non plus, super bien contrôlé. Une belle saveur, c'était un petit peu plus dans les légèretés. On avait une espèce de petite délicatesse là, qui était plus proche là, du bouillon de poulet. Donc, c'était vraiment intéressant. Un petit kick de poivre à la fin. Rien de malade, rien pour te faire crier les amygdales, mais juste pour amener un petit kick, un petit pincement là, dans le fond de la bouche. C'était parfait. Donc, encore une fois, on avait pas mal le saint trio là, qui était bien établi. La très belle patate, bien cuite, fraîche, coupée maison, bien exécutée. Le super beau gros morceau de fromage, tu vas voir sa photo, là. Il y en avait une quantité intéressante aussi. C'est plate quand tu es obligé de chercher le fromage. Puis c'est déjà vu aussi là, qu'une place que c'était rendu là, une soupe au fromage accompagnée de 3-4 patates, ça c'est ridicule, là. C'est pas ça une poutine. Même si on veut beaucoup de fromage, on veut des patates avec. Donc, super bel équilibre entre la quantité de patates et de fromage et le gravy à poutine. Pas trop lourd, pas trop salé, bien assaisonné, savoureux, une certaine légèreté. C'est un petit cake de poivre-là. Encore une fois, on n'est pas dans la folie là, des poutines là, qui sont pensées gastronomiques. C'est une poutine de cantine super bien exécutée avec à peu près pas de défauts. Donc vraiment, ce côté-là, super intéressant. On n'a pas grand-chose à redire. Comme je t'ai dit, les trois ingrédients de la poutine étaient là puis ça marchait tout ensemble. La poutine du petit bel oeil, un 4,5 sur 5. Encore une fois, là, dans la cantine traditionnelle, ça va être dur là, de battre ce type de poutine-là. Vraiment intéressant, super belle exécution. J'ai vraiment compris le buzz de pourquoi tout le monde en parlait là, sur les médias sociaux. Écoute, j'ai complété mon repas avec un breuvage. Tous les breuvages sont en canette à 2,50 $. Même là, c'est vrai, j'attendais. Là, je m'en allais chez une amie. J'ai pris un café en attendant. Café aussi, là, 2,50 $. Donc, ça a fait que je m'en suis sorti là, avec quand même une facture très intéressante là, pour une espèce de trio poutine, un gros burger rondelle d'oignon, là, où on était à 25 $. Évidemment, tout coûte cher aujourd'hui, mais pour une si grande quantité, quand même des belles portions, des trucs super frais, vous allez payer pas mal plus cher ailleurs pour pas mal moins gros puis pas mal moins bon. Donc, rapport quantité-prix, rapport qualité-prix, best bang for your buck, petit bel oeil va frapper très fort cette année. Clairement, là, des très, très beaux produits. C'est clair que je vais retourner essayer là, une couple de trucs. Il y a plein de trios de possibles. Je vais mettre la photo là, du menu que j'ai pris en photo avant de partir. Super intéressant. Très belle place. Les prix qui sont inscrits sur les affiches sont avec taxes incluses en plus. Fait que t'as pas besoin de calculer trop. Super intéressant. Très belle place qui mérite le buzz qu'ils ont. La cantine du petit bel oeil. Allez faire un tour. C'est ce qui complète le premier bloc pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, je vais te parler de deux gins et une bière, des maisons dont je t'ai déjà parlé, donc on ne fera pas de découverte de ce niveau-là, mais sinon c'est des produits différents, évidemment, de ce que je t'ai déjà parlé. Le premier, ben, c'est un gin que j'ai découvert grâce avec l'application SAQ. Ils vont avoir évidemment là, les espèces de spéciaux de la semaine qu'il y a déjà en succursale. Mais si tu utilises assez souvent ta carte Inspire, il va y avoir une espèce de sélection bonifiée selon les achats que tu fais. Ils vont te suggérer certains produits et te donner une grosse bonification des points. Donc, ça peut être super intéressant. La dernière fois, justement, que j'ai acheté, entre autres, ce produit-là, j'avais des scotch, des digestifs là, qui m'avaient suggéré. Donc, c'est des produits que j'aurais peut-être pas acheté cette semaine-là, mais que j'aurais acheté dans le temps de quelques semaines. Fait que j'ai comme profité du fait que j'avais une grosse vague de points de disponible et ça m'avait donné quasiment 25 000 points, donc je pense que c'est à peu près 25 $ là, de dollars bonus là, que tu peux accumuler. Donc ça vaut la peine là, quand tu fais des achats assez ciblés à la SAQ. Jette un œil sur tes spéciaux de la semaine quand tu es dû pour aller faire des courses. Des fois, tu pourrais là, juste précipiter peut-être là, d'une semaine ou deux certains achats et profiter de beaucoup de points. Alors, le gin qui m'a suggéré, c'est un gin de la maison Norrois qui est installé là, bien comme il faut, sur le boulevard Choquette à Saint-Hyacinthe. C'est le gin Petit Fruit de Norrois, une bouteille de 750 ml à 40% d'alcool, en vente évidemment à la SAQ, à 49,50 $. Un produit qui était très intéressant, qui n'allait pas nécessairement trop d'un côté ou de l'autre. Je te dirais que c'est peut-être en quelque part une espèce d'hybride entre un dry gin classique et un gin aromatisé aux petits fruits. Ce qui fait que tu n'avais pas une saveur qui était trop forte, des saveurs là, sèches et d'épices qu'on retrouve habituellement sur un dry gin. Et tu n'avais pas non plus nécessairement le côté très fruité qu'on va voir là, dans un gin aromatisé aux fruits. Donc ça faisait quelque chose de très intéressant. C'était des saveurs tout en délicatesse. Ça fait que ça va être un gin que tu vas pouvoir suggérer à peu près à n'importe quel amateur de gin, peu importe son profil de saveur favori. S'il y a un peu plus de dry gin, il devrait l'aimer. S'il aime les gins aromatisés, il devrait l'aimer. Donc, c'est pas un gin qui va prendre trop le contrôle, tu peux le boire avec dans un cocktail, ça va pas débalancer ton cocktail d'une façon ou d'une autre, juste lui donner une petite touche intéressante, donc un beau gin à avoir et à essayer. Quand même un prix raisonnable, les gins du Québec, des fois, il y en a certains qui peuvent monter un peu plus. On est encore là, dans la limite là, de ce qui peut être le fun d'acheter une fois de temps en temps. Donc, un très beau produit, pas nécessairement un produit qui se démarque de façon incroyable étant donné la délicatesse là, et qui se situe un peu entre deux styles de profil de saveur, mais il reste que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Comme je te dis, environ un semi-dry gin, semi-gin aux petits fruits. Les fruits qu'on va dénoter sont un peu plus du côté là, de petits fruits rouges, donc un peu plus là, des fruits des champs d'été du Québec. Mais vraiment quelque chose de très intéressant, tout à fait simple, un beau produit, comme je te dis évidemment, à la SAQ, un 750 ml à 49,50 $. J'y vais avec un 3,5 sur 5, quelque chose de très simple, qui est très désaltérant, très frais, goûteux à boire en gin tonic. Tu te trompes pas, le petit fruit de Norrois. Le deuxième gin dont je vais te parler, c'est un petit frère là, d'un produit dont je t'ai déjà parlé il y a longtemps à l'épisode 3. C'est un gin de la maison, la distillerie des Appalaches, la gamme des gins Kepler. C'est le Kepler Bord de mer, édition glaciale. Donc, c'est fait là, avec les fraises d'automne. C'est un gin là, qui est vendu à la SAQ pour 700 ml à 42,25 $, un produit de 40% d'alcool. La distillerie des Appalaches, évidemment, là, qui opère à Lévis, là, tout près de Québec. Donc, comme je t'ai mentionné, là, le gin Kepler Bord de mer, je t'en ai déjà parlé à l'épisode 3, évidemment, ça fait très longtemps, là, c'était au tout début du podcast. D'ailleurs, sûrement, si tu vas réécouter cet épisode-là, tu vas avoir des informations, mais ça risque d'être moins doux sur l'oreille. Là. J'étais à mes débuts, donc un peu de clémence là, si tu vas écouter cet épisode-là. Donc, je te parlais de ce gin artisanal-là du Québec qui est fait aux fraises du Québec. Donc, une très belle saveur fruitée. Là, j'avais bien hâte de voir. Mon amoureuse arrive avec ça, puis elle me montre ça. Elle dit « Hey, j'ai trouvé un bord de mer. » On en voit un petit peu moins là, à ce temps-ci de l'année. Évidemment, on en voit un peu plus là, au début de l'été quand ils sortent la batch, ça part vite. Et là, je remarque que c'est marqué « Édition glaciale ». Je me demandais bien qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, c'est ça, c'est que c'est fait avec les fraises d'automne. Donc, il y a une légère différence au niveau là, du profil de saveur. Personnellement, c'était déjà un gin que j'avais beaucoup aimé. Je t'en parle dans l'épisode 3 encore une fois. Et je lui avais donné une note de 4,5 sur 5. Donc, ça se corrait fort. Ben, j'ai trouvé qu'il avait quand même trouvé le moyen de s'améliorer. C'était à ce point-là. Évidemment, ça reste un gin à saveur de fruits. Donc, si c'est pas dans ta palette, ça se peut que tu ne trouves pas ça nécessairement là, à ton goût. Il y a sûrement là, d'autres gins qui vont être un peu plus dans le profil que tu aimes. Mais sinon, je te suggère quand même d'essayer. Surtout le bord de mer glacial, personnellement, tu le sais, quand ça va dans le sucre, c'est pas tout à fait de ce qui me fait capoter, ce qui est un petit peu le cas du gin bord de mer traditionnel. Là, dans l'édition glaciale, je trouve qu'il y a un peu de saveur de sucre qui s'est retiré et une saveur de vraiment de fruits frais, de fraises, qui se met de l'avant. Donc, on se trouvait à retirer la chose que j'aime un peu moins et mettre en avant la chose que j'aime un peu plus. Donc, on était vraiment dans un total saveur que j'apprécie beaucoup plus. Ça donnait un peu plus de crisp, un peu plus de fraîcheur dans la saveur du gin. Donc, ça faisait quelque chose de très intéressant. Comme je t'ai souvent dit, tous nos gins sont toujours bu en gin tonic avec le tonic léger de 16,42 $. C'était vraiment là exactement le pairing que je voulais. Ça mettait de l'avant encore plus cette fraîcheur de saveur de fraise et en mettant en plus de côté le côté sucré que le bord de mer traditionnel avait. Ça fait vraiment un gin très intéressant. Funny enough, ça aurait été peut-être pour moi là, un gin que j'aurais encore plus apprécié l'été. Probablement que rendu à l'été, là, il n'y en aura plus de l'édition glaciale et on va retourner à la nouvelle batch du bord de mer avec les fraises d'été traditionnelles. Donc, vraiment quelque chose de très frais, fruité, pas trop sucré, moins sucré du moins là, que le bord de mer normal. Donc, si tu as une chance de mettre la main là-dessus, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Si comme moi, tu aimes un peu moins les saveurs sucrées et que ça te punche dans le palais pas de la bonne façon, peut-être que tu vas encore plus apprécier ou du moins tout simplement apprécier si tu n'avais pas apprécié le premier, le gin bord de mer de Kepler de la distillerie Appalaches. Donc, pour la version édition glaciale, du Kepler bord de mer. Je vais le bonifier et je vais le monter à 4.75. Je trouve que ça l'a vraiment donné quelque chose de plus. Ça aurait pu tout simplement rien changer, mais vraiment, personnellement, je trouvais que c'était bonifié. Donc, un gin avec une belle fraîcheur. Le Kepler bord de mer édition glaciale. 4.75 sur 5. Pour terminer ce bloc-là, je vais te parler d'une bière. Une bière qui vient de ma microbrasserie favorite, donc le Bedonden et Bedonron de Chambly sur la rive sud de Montréal. C'est une lager LS à 5% d'alcool. C'est l'âme sœur. Ce que l'on va dire là, sur cette bière-là, c'est que son goût ressemble à une bière de type Pilsner, mais avec un côté un peu plus malté, sans être trop sucré et appuyé par de légers arômes de houblon noble. L'âme sœur, là, qui est vraiment là, une bière de type Inspiration Munich LS là, de l'Allemagne. Les céréales utilisées pour composer cette bière-là, c'est du malt bohémien, du pilsner, du malt du carafoam, du malt vienne et du houblon saaz. La bière a traditionnellement été créée le 12 octobre 2023. Le brasseur a dit « Je vous prédis une belle complicité amoureuse avec cette version plus hivernale de la lager estivale, rafraîchissante. » J'ai trouvé que c'était vraiment là, une bière, encore une fois, super bien exécutée, encore une fois, par Nicolas de Bedonden et Bedonron. Donc, cette espèce de lager à influence Pilsner, très crisp, frais, une belle céréale maltée. Une bière simple, comme on doit en voir là, de plus en plus. Il y a eu une espèce de vague là, quand la grosse folie des microbrasseries est arrivée, entre autres pendant la pandémie, où c'était des trucs là, d'une immense complexité puis des mélanges de saveurs qui n'en finissaient plus. Là, je suis content qu'on revienne à des recettes, des façons de faire très simples, qu'on trouve les bons ingrédients, qu'on les fasse bien, qu'on les exécute bien et qu'on serve ce type de bière-là. En simplicité, ça n'en fait pas une moins bonne bière, c'est juste beaucoup plus simple et c'est là qu'on apprécie les belles qualités là, de cette bière-là. Donc, une bière simple, exécutée, fraîche, crisp, avec ce beau petit côté céréal, comme je te disais, une espèce de saveur qui se promène un peu en quelque part là, entre la lager et la pilsner. Donc, une petite bière blonde simple là, que tu devrais apprécier, peu importe ton type favori. Une autre belle exécution de Bedonden et Bedonron. Donc, pour l'âme sœur, j'y vais avec un 3.75 sur 5. C'est une bière que j'avais une chance d'aller chercher. Un cruchon, là, encore content qu'ils font ça. Ils ont commencé ça, évidemment, pendant la pandémie là, pour pouvoir vendre leur bière parce qu'ils n'embouteillent pas du tout, ils n'encannent pas. Donc, ils ne vendent que leur bière, sinon, au pub directement. Ils ont gardé là, un petit menu avec quelques bières qu'ils faisaient en cruchon pour emporter. Sinon, accrochez-vous aux pieds, au bord. Le personnel est toujours super gentil et souriant. Vous allez être servi de façon la plus joyeuse possible. Donc, l'âme sœur de Bedonden et Bedonron, 3.75 sur 5. Et c'est ce qui complète le deuxième bloc pour aujourd'hui. Pour le troisième bloc, je vais te mettre à jour sur les dernières bières que j'ai achetées sur mon kegerator. Donc, je m'étais fait là, installer un petit pompe à bière là, en fût à la maison. Un petit système maison là, qui est très facile à avoir. Là. C'était un peu bricoleur. Là. Tu peux sûrement trouver des pièces assez facilement ou des kegerators carrément presque clés en main sur les plateformes là, d'achat seconde main, que ce soit Marketplace ou autre, Kijiji et compagnie. Donc, je te mets toujours à jour sur les dernières bières là, que j'ai eues sur mon kegerator. Ceux que j'avais eus avant ça, il y a eu un espèce d'espace là, depuis mon dernier bloc parce qu'il y a beaucoup de bières que j'ai achetées sur mon kegerator qui étaient des bières dont je t'avais déjà parlé. Donc, il y a eu, entre autres, là, l'Elfe Rousse, la Coco Beach là, de Le Sage Brasseur à Cowansville, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai une chance là, de m'avoir un cake de ça, j'y allais. Je pense que j'ai eu deux fois l'Elfe Rousse aussi. Donc, c'est des bières que je t'avais déjà parlé. L'Elfe Rousse, évidemment, là, du domaine Berthiaume de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai fait, en fait, une petite nouvelle découverte. Et mes trois prochains kegs, là, les trois kegs que je vais te parler aujourd'hui, viennent de Boswell Brasserie Artisanale, la boutique de Saint-Bruno de Montarville. Boswell Brasserie, là, qui est installée à Montréal depuis plusieurs années, a maintenant une boutique à Saint-Bruno de Montarville. Et ils offrent des kegs à très bon prix. C'est, entre autres, évidemment, la curiosité là, de nouvelles microbrasseries qui peut offrir des kegs et ils ont des excellents prix. En fait, c'est même les meilleurs prix que j'ai trouvés sur le marché présentement. Fait que ne tardons plus et commençons avec la première bière que j'ai achetée chez Boswell, microbrasserie boutique à Saint-Bruno. D'ailleurs, là, la boutique à Saint-Bruno, elle, est située au 42 boulevard Clairvue-Ouest à Saint-Bruno de Montarville. Donc, la première bière que j'ai achetée, c'est la Rousse Ale de Seigle, une Red Ale à 5,1% d'alcool et 26 IBU. Eux la décrivent comme une rousse légèrement épicée avec des douces notes de caramel. Je trouvais que c'était une bière très smooth, très crémeuse, avec une légère présence là, de seigle ou de céréales et une petite pointe de caramel léger en finale, ce qui faisait que c'était une bière tout en légèreté. C'était pas nécessairement une rousse très lourde. Le côté seigle-céréales se mariait bien. Actuellement, j'étais habitué d'avoir des rousses que j'apprécie beaucoup. Ce sont les rousses là, de malt torréfiées là, avec des grosses saveurs. On était un petit peu plus léger, puis j'ai aimé ça. C'était quand même différent. Ça l'a apporté une autre touche que je n'étais pas habitué, que j'avais déjà vu, mais que je n'avais pas nécessairement apprécié. Là, je trouvais que c'était bien exécuté. C'était quelque chose de bien le fun. Donc, la Rousse Ale de Seigle. Cette là, très belle Red Ale de 5,1% d'alcool de Boswell Microbrasserie, achetée là, à la boutique de Saint-Bruno de Montarville. Donc, j'y vais avec un 3,75 sur 5. Très belle bière, belle exécution, belle légèreté, un très beau produit. La deuxième bière que j'ai eue ensuite sur mon kegerator venant de Boswell Brasserie Artisanale, c'est leur Pilsner italienne, une Pilsner italienne à 5,2% d'alcool. Une bière que j'avais déjà goûtée il y a quelques années en canette. C'est une Pilsner légère, quelque chose d'agréable, légèrement amère, une petite pointe acidulée, peut-être un peu plus âcre là, qu'une Pilsner tchèque, mais quelque chose de très frais, avec un léger côté là, de pain, levure, céréales. La version en fût, je te dirais qu'il y avait une certaine légèreté supplémentaire, donc ces mêmes types de saveurs-là, avec peut-être un côté un petit peu plus crémeux là, qui allait chercher toutes les saveurs là, qu'il y avait dans la Pilsner italienne. Évidemment, là, c'est un type de bière là, qui va un petit peu plus vers l'amertume que la céréale ou le fruité, mais c'est quand même un style très intéressant. Peut-être un peu plus là, le style que j'aurais tendance à boire un peu plus l'été. Évidemment, celle-là, je l'ai eu pendant le temps des fêtes. Je suis en vacances, c'est là qu'on boit des bières là, un petit peu plus simples puis qu'on en prend peut-être un petit peu plus. Donc, c'était pour moi tout à fait là, le type de bière que je cherchais. En fait, la type de bière que je cherchais à l'origine, c'était leur West Coast IPA, de quelle j'entends beaucoup de bien. Et à chaque fois que je suis arrivé pour commander un keg, j'attendais trop longtemps ou le timing n'était pas bon. Et j'arrivais toujours, là, genre deux jours après, qu'il n'est plus la West Coast disponible en fût. Donc, ce n'est que partie remise. Là, je vais sûrement mettre la main là-dessus éventuellement. La West Coast IPA qui est déjà là, un style de bière que j'apprécie beaucoup, surtout ces temps-ci. Comme j'entends là, beaucoup de bien de celle de Boswell Brasserie Artisanale, c'est sûr que je m'arrangeais pour mettre la main dessus, mais la Pilsner italienne a été la bière de soif, pas seulement de soif, elle est un petit peu plus travaillée que celle-là, mais quand même là, une belle blonde, une Pilsner légèrement amère, qui était très bien exécutée avec plein de petites subtilités, qui rentrait bien, qui était fraîche, qui était parfaite. Comme je te dis, ce petit côté peut-être là, up value, là, le petit peu plus de crémeux là, dans la version en fût par rapport à ce que j'ai pu en boire là, de la version en canette. Une très belle bière, encore une fois, de Boswell Brasserie Artisanale, leur Pilsner italienne. J'y vais avec un 3,5 sur 5. Et celle que j'ai présentement, c'est la Paulette Mavé Pivot, là, comme je t'en ai parlé d'une autre brasserie, évidemment, là, mais de ce type de bière-là au dernier épisode. C'est une lager ambrée à inspiration tchèque à 5,6% d'alcool. Je t'ai effectivement parlé d'une Paulette Mavé là, que j'avais bu à la Croisée des Chemins au dernier épisode. C'était la version de Lagerbrau. La version de Boswell Brasserie Artisanale est un petit peu plus en légèreté, donc un beau sweetness, très légère, un très bel équilibre là, entre le caramel, le biscuit, une espèce de très douce amertume, quelque chose de très crémeux en tête avec une belle exécution. C'était quelque chose d'un peu moins lourd que les Paulette Mavé que j'avais essayé, d'ailleurs un petit peu plus pâle. Là, tu vas pouvoir voir sur les photos là, qu'on n'est pas tout à fait dans les bières aussi foncées que ce que j'ai que ce que je t'ai montré auparavant. Donc, une version un peu moins puissante que les autres Paulette Mavé que j'ai bu, mais il y avait quand même là, ces belles petites effluves, entre autres, comme je t'ai dit, là, cette espèce de léger équilibre là, de caramel, biscuit rôti qui était quand même très le fun et une toute délicate amertume. Une belle entrée crémeuse, quelque chose de léger, un beau sweetness, pas trop fort. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette bière-là. C'était le type de bière que j'apprécie boire à peu près n'importe quand dans l'année. Donc, on n'est pas dans le trop lourd, on n'est pas dans le trop sweet. Pas nécessairement une bière là, qui est plus de bière de soif qu'on veut prendre pendant les grosses canicules d'été. Vraiment, là, c'est un type de bière à la base que j'ai découvert dernièrement et que j'apprécie beaucoup. Et je trouve la version de Boswell Brasserie Artisanale très intéressante. Donc, pour leur Paulette Mavé Pivot 7 Lager Ambré à inspiration tchèque, j'y vais avec un 3.75 sur 5. Donc, c'était les trois derniers kegs que j'avais eus sur mon kegerator. Comme je te dis, Boswell a des très bons prix pour les kegs. Personnellement, j'achète les kegs de 20 litres parce que j'ai juste un petit kegerator maison. Les kegs de 30 litres ne rentrent pas. Puis de toute façon, je suis tout seul à boire de la bière à la maison, à part quand j'ai un invité ici et là. Donc, ça se viderait pas assez vite. Donc, le 20 litres est parfait pour moi. Et c'est un prix très raisonnable. Une fois la consigne enlevée, évidemment, la consigne, c'est un petit montant à payer au début, mais en bout de ligne, c'est un montant qui va te revenir. Et la consigne des kegs a monté partout dans toutes les microbrasseries. Il y a eu une espèce de grosse vague de vol de kegs. Soit les gens s'est utilisés en restauration pour faire de la décoration dans leur restaurant ou leur brasserie. Soit les brasseurs amateurs là, qui font leur bière à la maison achetaient un keg et payaient une consigne de, je sais pas, au moins 20, 30, mettons 40 piastres et n'avaient pas besoin d'acheter un beau keg là, qui avait été testé auparavant et sauvaient là, un 100 piastres et plus. Donc, un peu partout là, maintenant, la consigne pour les kegs est rendue de 100, 120 puis 130 piastres pour être certain là, que la compagnie retrouve ses kegs. Bon, c'est un peu dommage au début, mais comme je te dis, en bout de ligne, ça reste une consigne. Fait que l'argent te revient à la fin. Les kegs de Boswell Brasserie sont tous le même prix. Tu as juste à les contacter et tu vas avoir là, le petit formulaire là, pour pouvoir passer la commande des bières qu'ils ont de disponibles en keg. Et tous les kegs de Boswell sont genre 90, pour les 20 litres évidemment, sont environ 90$ plus taxes. Donc je pense que ça revient quelque chose comme à 102,13$ pour un keg de 20 litres, une fois qu'on met mis à part évidemment la consigne. Ce qui veut dire, dans un 20 litres, on a environ 40-42 pintes. Ça te revient à peu près 2,80 $ la pinte de bière à la maison. Si tu veux avoir le fun d'avoir une bière en draft à la maison, bien, ça va revenir quand même à très bon prix. Tu peux t'équiper à prix très modique, donc c'est facile là, de rentrer dans son argent. Si tu es moindrement là, manuel, tu peux te patenter ça là, avec un petit frigo seconde main. Super facile, sinon ben, y a des moyens d'avoir des kits déjà tout montés. Ça vaut vraiment la peine si c'est le type de truc que tu vas avoir, mettons, dans ta man cave pendant que tu écoutes le hockey ou le football, quand tu reçois tes chums. Sinon, ben, c'est toujours là, le fun d'avoir une bonne bière à prix modique. Donc, c'était pour les Kegerator. C'est ce qui complète le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode 105 du podcast Aliment Passion. N'oublie pas de t'abonner au podcast. Peu importe où tu écoutes ton podcast, on est partout. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balado Québec, iHeartRadio. On est absolument partout. N'oublie pas de t'abonner que le podcast rentre directement. Mets un rating 5 étoiles, mets un commentaire. Ça fait toujours plaisir là, de voir le podcast grimper dans les ratings. N'oublie pas aussi, abonne-toi à la page Le Crazy Chef sur les médias sociaux, autant Facebook que Instagram. En fait, il va y avoir aussi là, les informations pour les capsule que je fais sur le podcast de mon ami Benoît Roger là, de BPM Sport qui ont parti leur propre chaîne de podcast qui s'appelle La Commission Athlétique. À la fin du podcast de mon ami Ben, j'ai une capsule foodie là, où je vais donner des informations là, et une recette foodie. Donc, n'hésite pas si tu veux avoir des informations sur cuisiner de façon simple et facile. Il va même avoir éventuellement une version vidéo. Donc, va t'abonner à la page Le Crazy Chef et écoute le podcast de mon ami Ben Roger, Le Merveilleux Monde de Benoît Roger sur les plateformes de la Commission Athlétique. En attendant, il dit Roger, ton Crazy Chef, qui te rappelle, faut arrêter de faire des recettes, il faut cuisiner. Bye bye!